Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour poursuivre notre exploration du récit de la Genèse, ce premier récit qui nous décrit, en tout cas qui nous décrit, oui, six étapes révélées, qui nous apprend ce qu'est l'homme, ce qui fait de l'homme, et puis nous pourrions dire ce qui lui, quel accès à la parole le caractérise, et toujours dans ce rapport que nous avons évoqué au premier jour, une parole qui est déjà une expression de Dieu, cachée, que l'homme peu à peu reconnaît et lui permettra d'entrer dans une alliance. Donc nous en sommes aussi, nous allons aborder le sixième jour en cette émission. Nous avons donc vu les cinq premiers en 10 émissions précédentes que la radio peut vous communiquer si vous souhaitez un petit peu, parce que vous, ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent savent que ces textes sont pertinents, intelligents et demandent une explication suffisante pour entrer dans ce mythe, voilà, cette parole révélée qui nous dit ce que nous sommes. Alors je reviendrai pas sur toutes ces étapes puisque tout à l'heure vous nous referez un résumé donc de ces cinq premiers jours dans la création. Ce que nous pouvons dire, c'est que le cinquième jour, là c'est ce que nous avons vu, étudié lors de notre émission précédente, Dieu crée les âmes vivantes qui se caractérisent par ce souffle de vie qui les anime, donc les poissons, les oiseaux. Voilà, différentes figures que nous avons appris aussi à regarder comme des signes, puisque c'est ce que le quatrième jour nous a révélé à travers les luminaires. Voilà, alors je ne vais pas développer peut-être davantage, si ce n'est ce point qui me semble important, l'âme comme ce lieu du désir, et puis aussi le lieu de la raison, l'activité de l'âme et de penser. Alors voilà, ce sixième jour, donc, alors vous en parlerez tout à l'heure, mais nous savons maintenant que la structure cyclique de la création, de ces six jours, il y a donc une correspondance entre le premier et le quatrième, le second, le cinquième, le troisième et le sixième. Alors, peut-être avant même que vous commenciez à nous expliquer ce texte, nous pouvons peut-être tout d'abord écouter cet
Bien
extrait
sûr. Oui, oui, oui.
Du livre de la Genèse.
Donc, le texte du sixième jour. Oui.
Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils soumettent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour.
Merci. Voilà. Alors, la traduction en français, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut le répéter, est approximative. Parce que il y a des mots hébreux difficiles à traduire. Et en particulier, les petites bêtes n'existent pas en hébreu, mais par contre, il y a des expressions bien plus fortes, comme du type Rayat Haaretz, c'est les vivants de la terre. Alors évidemment, on est obligé d'interpréter quand on traduit. Mais abordons donc ce sixième jour, et selon une bonne règle d'interprétation, il faut regarder la fin, la clôture du texte, pour en comprendre le commencement. Parce que les règles d'interprétation sont données ainsi. Et la fin du texte, ici, c'est, selon le refrain qu'on a entendu déjà cinq fois, c'est le sixième, « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour le sixième, et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Alors, « et furent achevés les cieux et la terre », c'est dans le chapitre 2, verset 1. Mais évidemment, nous, on s'est arrêté dans la lecture à la fin du chapitre 1. Mais vous vous souvenez que la division en chapitres et en versets est une chose récente qui date en gros du Xe siècle après Jésus-Christ. Alors c'est très commode pour se repérer dans le texte, mais ça n'est pas une division toujours pertinente du texte. Donc on n'est pas du tout lié au numéro. On est lié au sens du texte, si on le trouve. Et la chose très particulière qu'on remarque cette fois-ci, c'est que d'habitude on a « il y eut un soir, il y eut un matin », jour deuxième, jour troisième, etc. Et ici, c'est jour le sixième. Il y a un article. Et cet article qui est devant marque justement quelque chose qui est unique en son genre. C'est le sixième jour. Alors, il faut regarder ce que ça signifie. On nous parle justement d'achèvement. Donc, et d'accomplissement. Si rien d'autre donc ne sera fait après ce qui a été fait. Donc, il faut se mettre dans la perspective que tout est dit. Donc nous arrivons à la fin du premier chapitre, et d'une certaine façon, de ce qui concerne la création, tout est dit. Donc il n'y a rien d'autre à dire, c'est parfait. Cependant, comme chacun sait, au chapitre 2, il va y avoir le récit du Jardin d'Éden, où, semble-t-il, on recommence un récit de création. Alors, en fait, ça, c'est une illusion de perspective, parce que c'est un gros plan sur le sixième jour. C'est-à-dire, le sixième jour est tellement riche, et il s'agit de l'apparition de l'homme, qu'on va reprendre ces images dont les principes sont donnés, effectivement, est définitivement donné, mais pour que nous les comprenions, et surtout pour comprendre ce qui s'est passé par la suite, il faut voir comment l'homme apparaît pour lui-même, ça sera le second récit, et comment ça sera le récit de la chute, comment ça ne va pas. Donc, pour interpréter notre sixième jour, nous sommes avant la chute. Donc, la difficulté d'interprétation pour nous, c'est de ne pas réfléchir en fonction de la suite, là, qui est justement le désordre que nous constatons dans la vie du monde, par exemple, et dans nos vies, pour aller voir comment ça a été conçu par Dieu, et c'est ça qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est comment Dieu pense l'homme en le créant. Et donc, il le pense, évidemment, parfait, parfaitement. Pourquoi ? Parce que Dieu est parfait. Donc il ne pense pas l'homme à moitié et un peu déficient et puis très faible et puis tout ce qu'on connaît. Non. La chute, c'est un récit très spécial auquel nous parviendrons peut-être dans une autre série d'émissions. Mais là, nous en sommes à la création. Donc, il y a une première chose à bien remarquer, c'est que Dieu voit que tout est non seulement bon, mais très bon. Alors pourquoi y ajouter ? Quand c'est bon, c'est bon. Et c'est fini. Alors très bon, ça marque une surabondance du bien. Et ça, c'est caractéristique de la beauté. Parce que les choses, quand elles sont bien faites, mais on peut y ajouter quelque chose qui est une perfection. Les choses sont faites, mais on peut arriver à une perfection. À savoir, donner quelque chose qui n'est pas constitutif de son être, mais qui va être une gloire, un rayonnement, une magnificence purement gratuite. Alors, le don de l'existence est gratuit. Eh bien, il va y avoir une gratuité de la gratuité qui est la beauté des choses. Et donc, nous allons entrer dans la beauté de la création. Évidemment, la beauté ne peut paraître que lorsqu'il y a quelqu'un pour la voir. Et c'est l'homme. Donc, notre point de vue pour examiner ce sixième jour, c'est que nous aboutissons à un monde parfait où rien ne manque. Et donc, si on peut dire, parce que nous avons une certaine culture qui n'est pas toujours très chrétienne, est-ce que Dieu a créé le meilleur des mondes, comme dit Leibniz, dont on s'est beaucoup moqué. Et Leibniz, qui est un grand savant, hein, un promoteur du calcul différentiel avec Pascal, hein, et Newton après. Le monde est le meilleur possible. Alors, est-ce que cette phrase a du sens dans notre contexte? Alors, ça peut avoir du sens, mais il faut corriger tout de suite une idée. Parce qu'on peut entendre, dans le meilleur des mondes possibles, que Dieu aurait eu à choisir entre plusieurs possibles, et il aurait choisi le meilleur. Cette phrase n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que l'idée même de possibilité ne peut avoir lieu que si la création a eu lieu. Donc la création est nécessairement un acte parfait du côté de Dieu. Et cette création parfaite contient des possibles. Et c'est ensuite la mise en œuvre de ces possibles qui est bonne ou mauvaise. Et on va voir qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités dans ce monde parfait, mais il peut y avoir un mésusage de ces possibles, et en particulier, c'est ce que l'homme va faire dans sa chute. Mais donc, c'est le meilleur des mondes, dans le sens que il ne peut pas en exister d'autres. C'est ce que Dieu a fait, à l'intérieur duquel il va y avoir beaucoup de possibilités, effectivement.
Qui sont elles-mêmes donc une expression de la perfection de l'acte créateur de Dieu. Il y a des possibilités, bon, nous le verrons, mais voilà, qui vont permettre à l'homme de s'orienter, de se diriger. Voilà.
Alors on a vu que le monde contient par lui-même beaucoup de possibles, c'est-à-dire des choses qui n'auront pas forcément lieu, mais qu'il va falloir réaliser. Ça, on l'a vu dans la première phrase, hein, quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Donc, on se souvient que notre interprétation traduit les mots en un mélange d'ordre et de non-ordre. Et il y a aussi, bien sûr, l'abîme, qui est ni ordre ni non-ordre, et les eaux qui sont non-ordre, qui sont une figure, bien sûr, de l'aléatoire.
Et le ciel qui est d'ordre aussi.
Le ciel, c'est de l'ordre parfait, bon, par définition. Hein, c'est la figure, parce qu'on ne travaille que sur des images et des figures, bien sûr. Mais il y a une pensée tout à fait structurée derrière. Eh bien, la perfection du monde contient des possibles. Par conséquent, le monde est bien fait, non pas comme un cristal indéformable, mais comme quelque chose qui va contenir de l'imprévu. Et donc, lorsque l'homme va paraître, c'est ce qu'on nous raconte dans les six jours, en fait, mais on arrive donc à la perfection même de la conception de l'homme, alors il va avoir quelque chose à gouverner. Il y a des choses qui ne sont pas déterminées. Et c'est l'homme qui va déterminer certaines choses. Tout n'est pas déterminé dans le monde. Et la preuve, c'est que nous pouvons y agir, nous pouvons cultiver. Bon, dans la nature, comme on dit, les graines se répartissent au hasard, au gré des vents et d'une façon complètement aléatoire. Bon. Nous, on peut ramasser des graines et les semer dans un champ cultivé. Donc, on va multiplier, du coup, leur productivité. Et ça, c'est notre gouvernement. Eh bien, le monde est fait pour que quelqu'un, un jour, c'est nous, c'est l'homme, puisse y gouverner quelque chose. Et ça va être la clé de compréhension, par exemple, de l'ordre qui est en même temps une bénédiction et une feuille de route, qu'il domine, par exemple. La traduction, c'était qu'il soumette, comme si c'était un maître qui devait prendre puissance sur des esclaves. Non, c'est pas ça du tout, mais qu'il domine le poisson de la mer, l'oiseau du ciel, les bêtes de la terre et toute la terre. Et on arrivera à une explication plus profonde, mais je dis tout de suite qu'il s'agit d'une maîtrise que l'homme doit avoir en lui-même. Parce qu'on a vu que toutes les étapes de la création qu'on nous raconte sont des étapes de la formation de l'homme. Et nous avons vu le cinquième jour, justement, qu'il apparaissait des poissons et des oiseaux, que c'était une forme des vivants qui contiennent non seulement l'automatisme des vivants, mais une certaine autonomie qui se traduit par le désir, nous y reviendrons, mais qui n'a pas de régulation en soi, sauf par le manque de nourriture. Les animaux cherchent leur nourriture, ils la trouvent ou ils ne la trouvent pas, c'est tout. Donc, ils ont un désir qui les porte à chercher leur nourriture. Donc ça, l'homme va être muni de ces capacités-là, il va en obtenir, ou on va lui donner une autre, mais qu'il va falloir mettre en œuvre. C'est pas simplement ce qui nous porte vers les choses, pour notre nourriture, ou pour notre bien-être, mais une régulation de ces mécanismes-là. Et ça va être proprement la raison, mais qui n'apparaît évidemment qu'au sixième jour, et dans la perfection de l'homme.
Alors je vous propose, Jean-François, que nous prenions une première pause musicale. Nous écoutons César Franck, et le titre de ce que nous allons écouter s'appelle « Les Éloïdes ». Jean-François, nous reprenons. Donc vous venez de nous redire que la perfection du monde dépendait donc de notre propre perfection, puisque ce monde est achevé quand l'homme gouverne. Alors, voulez-vous ajouter quelque chose sur ce point? Et puis sinon, revenir sur le sixième jour. Alors qu'est-ce que ce dernier jour pour l'homme ou pour la création dans son achèvement?
Oui, eh bien, il y a une espèce d'évidence, c'est que le sixième jour est souligné par cet article comme s'il était unique. Et effectivement, il est aussi unique que le premier, où on dit jour unique. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'achèvement. Et si c'est le jour de l'achèvement, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre après. Donc il est le dernier jour. Et ça va nous donner une lumière sur ce qu'on appelle le dernier jour dans toute l'Écriture. Et ça vaut la peine d'aller faire une petite exploration là-dessus, parce qu'on ne le voit pas d'habitude. Nous, on pense les jours d'après notre expérience sensible, à juste titre, c'est-à-dire il fait nuit, il fait jour, et ça recommence. Et depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps, comme on dit. Et donc nous comptons le temps comme ça, parce que tout la définition même du jour, c'est d'avoir un jour précédent et d'avoir un successeur, indéfiniment, semble-t-il. Alors là, les physiciens nous mettent une borne dans le passé à 15 milliards d'années ou plus, et mettent une borne dans l'avenir, quand tout explosera, dans le système solaire. Bon, mais évidemment, il ne s'agit pas de ce problème. Donc, qu'est-ce que veut dire, donc, dans l'idée expérimentale, physique, sensible, un dernier jour n'a pas de sens. Et ici, c'est vraiment le dernier jour. Alors, quel sens ça a ? C'est un paradoxe pour nous, tout comme le premier jour. Alors, comme il s'agit de principes, le jour qui est le dernier n'est pas un jour ordinaire, parce qu'il n'est précisément suivi de rien. Alors, ça nous indique une chose très importante, c'est que si on continue le récit, on va trouver un septième jour. Et si on regarde bien le récit, on verra que ce septième jour n'a pas de soir et n'a pas de matin. Donc, en fait, ça n'est pas un jour. Et effectivement, il s'agit de sortir du cycle, comme tout a été fait en six jours. Le septième jour va figurer donc, dans la suite des jours ordinaires, quelque chose qui n'est pas créé. Donc le Shabbat nous met en présence du non-créé. Donc, nous apprenons tout sur la création en six jours, et nous apprenons le septième jour, qui va être forcément rituel, puisque la ronde des jours continue au niveau physique, mais au niveau du sens, il n'y a pas de septième jour. Donc il faut rentrer dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du temps. Donc ça sera pour une instruction future. Nous, mais ça colore déjà le sixième jour. Ça veut dire que tout est achevé là. Il n'y manque rien. Le septième jour ne va pas ajouter à la création, il va nous faire voir autre chose que la création. Mais chaque chose en son temps, si j'ose dire. Alors, le sixième jour est donc ce qui clôt le temps et permet de sortir du temps. C'est-à-dire, si on n'est pas arrivé au sixième jour, on ne risque pas d'arriver au septième. Donc, si l'homme n'arrive pas à son achèvement, il ne peut pas entrer dans la réalité du Shabbat. Et je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, le Shabbat est une prophétie de la résurrection. Alors, nous voyons donc rétrospectivement qu'il y a une entrée dans le temps par le jour unique, mais qui n'est pas proprement temporelle. Et la même chose, nous avons une sortie du temps, le sixième jour, qui n'est pas proprement temporelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, pour ça, il faut aller voir un peu plus loin dans la révélation. Puisque ici, nous avons un principe, mais il n'est pas explicité. Mais quand on voit par exemple le prophète Isaïe, au chapitre 44, verset 6, on a une révélation sur Dieu lui-même. Ainsi parle Yod et Vavé, le roi d'Israël, et Yod et Vavé de Sévaot, son rédempteur. Donc le roi d'Israël et le rédempteur, c'est la même chose. C'est pour les chrétiens, doivent s'en souvenir, parce que c'est le fils de David qui va être le rédempteur. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Dieu ? Il dit, moi, je suis le premier, moi, je suis le dernier, et hors de moi, pas de divinité. Donc, quand on a premier et dernier, on a l'idée d'une totalité absolument exclusive, il n'y a rien d'autre. Donc, si on voit que le jour est unique, et que le premier ne devient premier que rétrospectivement, et qu'il y a un dernier jour, ça veut dire que la création, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre monde. Et ça, c'est très important, parce que nous, on pense de temps en temps, par spéculation, à la multiplicité des mondes, comme Fontenelle, comme d'autres philosophes. L'imagination est féconde, mais la réalité n'est pas celle-ci. Alors, ce qui est révélé, c'est qu'il n'y a pas d'autre monde. C'est cet acte de création. Et on voit aussi dans Isaïe, toujours à propos de Dieu, écoute-moi Jacob et Israël, mon appelé, celui qui est appelé par Dieu. Moi, je suis le premier, comme moi aussi je suis le dernier. Car ma main a fondé la terre, ma droite a déployé les cieux, et je suis appelant et ils se tiennent debout tous ensemble. C'est-à-dire que c'est Dieu qui appelle à être, et ils ne tiennent que par son acte. Donc, et on voit que premier dernier est rapporté au fait d'avoir fondé la terre et les cieux. Donc il y a quelque chose qui se révèle de Dieu dans les six jours, en tant que créateur, bien sûr. Et il y aura quelque chose de Dieu qui se révélera le septième jour dans une pure ritualité. Mais ça, c'est dans le gouvernement que l'homme va imposer à sa propre temporalité. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, nous voyons aussi, pour avoir une perspective complète, quelque chose dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse, c'est la dernière révélation. Je lis le passage. « Et lors de la vision, je tombais devant ses pieds comme mort. » Donc Jean voit, a une vision du Christ ressuscité. « Il posa sur moi sa main droite, donc comme la droite qui a créé toute chose, disant « Ne crains pas, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis celui qui est vivant et qui était mort. Et voici, je suis la vie pour les siècles des siècles. Amen. » Autrement dit, en dehors de lui, il n'y a rien.
On trouve aussi « je suis l'alpha et l'oméga », donc la première et la dernière lettre de l'alphabet.
Voilà.
Grec.
Donc, l'alpha et l'oméga, c'est la traduction, évidemment, des lettres hébraïques, aleph vétav, qui forment un mot. D'ailleurs, il y a un jeu de mots qui est absolument intraduisible en grec, d'ailleurs, ce qui prouve d'ailleurs que l'Apocalypse a été pensée en hébreu plutôt qu'en grec. Ça veut dire « je suis le signe », bien sûr. Alors, le dernier jour a quelque chose de très important, puisque c'est évoqué par Jésus lui-même dans son enseignement. Et on voit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang » à la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est certainement pas une vie temporelle. Hein. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors qu'est-ce que c'est ce dernier jour? Mais justement, c'est le sixième jour de la création. C'est la même chose. Et en Jean 6, 40, on avait « Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite, moi, au dernier jour. » Alors, évidemment, si on imagine que le dernier jour, c'est le dernier jour de l'histoire chronologique du monde dans 4 milliards d'années, c'est stupide. C'est, en tout cas, ça n'est pas ce que dit le texte. Le dernier jour dont parle Jésus, c'est évidemment le sixième jour. Ce qui précède le septième, qui est un jour rituel, qui est le jour de la connaissance de Dieu, en dehors de son acte créateur. Alors évidemment, pourquoi on est ressuscité? Mais pour pouvoir accès au véritable Shabbat. C'est ce que va expliquer toute l'épître aux Hébreux de Paul. C'est que ils n'entreront pas dans mon repos, dans mon Shabbat, ceux qui sont rebelles. Mais le dernier jour, c'est l'achèvement donc de l'homme. Et pourquoi faut-il être ressuscité? C'est que entre le sixième jour de la création, où nous voyons la perfection de l'homme, prophétisée bien sûr, et nous, il y a la chute. Et donc, il faut que nous soyons ressuscités, remis debout, relevés de la maison des morts dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes comme des morts spirituellement, s'entend. Nous n'avons pas une vie complète. Tant que nous n'avons pas la vie de Dieu en nous, nous avons une vie mortelle, comme celle des animaux. Et on va voir que la chute, c'est justement de perdre ça. La rédemption, donc la résurrection que Jésus institue, d'abord pour lui-même et ensuite pour nous, c'est bien sûr pour nous, eh bien c'est d'être reconstitué dans la perfection du sixième jour, qui est le dernier jour. Et donc, nous avons cette promesse. Et ce dernier jour, c'est un état de l'homme, un état de perfection.
Prenons, si vous voulez bien, une seconde pause musicale, toujours un extrait de César Franck.
Thank you.
Alors Jean-François, est-ce que vous pourriez nous faire un lien, donc, puisque nous avons vu qu'il y avait une correspondance entre les trois premiers et les trois derniers jours. Alors, pouvez-vous nous faire un lien entre le premier soir du premier jour et puis ce dernier soir du sixième jour?
Oui, oui. Alors, il faut visualiser le cycle. Alors, si on vise, il y a, tout commence un soir. Et on a expliqué pourquoi. Parce que ça évoque la conception même de l'homme, si vous vous souvenez. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique. Et après, il y eut un soir, il y eut un matin, jour second, etc. Et on arrive au sixième jour, il y eut un soir, donc il y eut un matin, et donc on arrive au soir qui serait le soir du septième jour. Mais en fait, comme c'est un cycle, on tombe sur le soir du premier jour. Donc ce qui colle avec la perfection même de l'homme, c'est le tout premier acte de conception. Et il se trouve que la résurrection sera au matin du premier jour qui suit, effectivement. Vous voyez, donc toute la révélation est cohérente à ce point de vue-là. Et même les datations ne sont pas par hasard, elles sont signifiantes. Alors, nous venons d'entendre de la musique, là. Et pendant que nous écoutions cette musique, je me dis, mais voilà un exemple parfait d'achèvement du monde. Vous voyez, la musique n'existe pas dans la nature. Cet arrangement de sons, les sons sont possibles. Les cordes vibrantes sont possibles. Il faut les fabriquer. Les cordes de piano, ça n'existe pas dans la nature. Et donc, nous les fabriquons. Nous mettons un certain ordre dans le monde par notre travail. Et après, il y a cette espèce de création inouïe, au sens propre, on n'avait jamais entendu, de cette musique qui est la perfection du gouvernement de l'homme dans le monde. Et s'y ajoute la beauté. Et c'est ça la gloire de Dieu. La perfection de l'homme, c'est d'ajouter de la beauté au monde. C'est pas simplement de faire de la physique, de savoir comment fonctionnent les cordes vibrantes. Bien sûr que ça existe. Mais cette beauté qui va nous émouvoir, ça fait vibrer ce qu'est l'homme parfait. Et donc, Deo Gratias et tous ceux qui font de la musique perfectionne le monde, achève le monde. Et on est au dernier jour, là. Il nous manque juste la vie plénière du Christ pour ressusciter. Voilà.
Alors, ce serait intéressant que vous nous refassiez peut-être rapidement les grandes étapes de ces six jours ou de ces cinq jours préparatoires du sixième pour que nous ayons bien toute la perspective du développement.
Alors, on va faire.
Et de l'achèvement de.
C'est ça, un point de vue un peu cavalier, rapide, sur tout ce que nous avons déjà vu pour pouvoir mieux saisir ensuite ce sixième jour. Eh bien, le premier jour, vous vous souvenez, nous avons reçu, en quelque sorte, dans la conception même de l'homme, un principe de la connaissance et un principe par le contraste que nous allons retrouver le sixième jour, mais achevé. Alors, le contraste, il est donné par la distinction de la nuit et du jour, de la lumière et des ténèbres. Vous vous souvenez? On va retrouver ça au sixième jour dans la création de l'homme Zakar Unekva. Je le dis en hébreu parce qu'en français c'est très difficile à traduire parce qu'on dit habituellement mâle et femelle ou homme et femme. Et c'est pas très bon. Mais c'est sûr que l'image, c'est le contraste sexuel qu'il y a dans la nature humaine. Donc c'est du masculin et du féminin. C'est le contraste fondamental qui est dans notre vie, que nous voyons charnellement. Parce que souvent, nous nous arrêtons au cinquième jour. Nous n'allons pas au sixième jour. Mais voyez que le contraste fondamental qui permet la connaissance de la distinction de la nuit et du jour va se retrouver d'une façon vivante, et pas du tout métaphysique là, mais signifiante, d'une chose extraordinaire qui va être la possibilité de la logique dans l'homme. Et c'est le contraste sexuel. Je sais bien qu'on ne le voit pas comme ça d'habitude. Mais justement, nous sommes là pour expliquer des choses qui sont contenues dans le texte. Il suffit de les voir. Donc, le deuxième jour, nous avons vu que la présence du corps humain, qui est notre instrument de connaissance, nous faisait distinguer le haut du bas. Mettre de l'ordre dans le monde. Et nous mettait, je ne répète pas tout bien sûr, dans la possibilité d'un gouvernement. ça y était. Mais ce n'était que la possibilité. Le sixième jour, il va falloir gouverner. C'est notre feuille de route. Dominer le poisson, l'oiseau, on verra ce que ça veut dire, et les bêtes de la terre. Le troisième jour, qui est très spécifiquement relié au sixième, c'était la distinction de la terre et de la mer, avec une nouvelle progression dans la logique, puisque ça nous mettait avec toute la technique du bord et des quatre catégories. Et la deuxième partie du troisième jour, c'était la possibilité du langage qu'on voyait apparaître à travers l'automatisme de l'herbe, de la végétation, et le choix avec les arbres, hein, qui nous mettait, à cause de l'embranchement, là aussi. Tout ça, ce sont des figures de capacité innée dans l'homme, et qu'il faut qu'il soit établi. Et que d'une certaine façon, dans notre travail de mise en œuvre, nous avons ces choses-là à mettre en œuvre. Le quatrième jour, nous avons vu que les choses, nous devions utiliser les choses, donc en particulier les astres, le soleil, la lune, les étoiles, pour fabriquer des calendriers qui fabriquent des fêtes pour que la socialité de l'homme soit bien établie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme en dehors d'une société. C'est la société qui fait paraître les individus et non pas l'inverse. Alors ça, c'est très important aujourd'hui, parce que nous, on croit tout le contraire, bien sûr. Donc, que nous soyons a priori dans la relation rituelle les uns avec les autres, fait partie de notre nature. Et quand on la nie, ça donne une sauvagerie inouïe. Nous avons un rituel à respecter. Eh bien, ce que nous faisons naturellement, mais aussi avec l'éducation, c'est que quand nous nous rencontrons, nous nous disons bonjour, par exemple. Quand nous nous quittons, nous nous disons au revoir. Et ce sont des rituels de politesse, mais qui sont essentiels pour vivre. C'est pas du tout quelque chose d'arbitraire. Ce qui va être arbitraire, c'est la façon de le faire. Hein, en faisant tel ou tel signe, en disant tel ou tel mot. Mais ce qui n'est pas arbitraire, c'est le rituel, qui est absolument nécessaire. Dès qu'il y a deux hommes, il faut qu'il y ait un rituel. Et ça, c'est le quatrième jour. C'est bien antérieur à la perfection de l'homme. Donc si ça n'est pas respecté, inutile de dire qu'on n'arrive même pas à la vie psychique du cinquième jour. Le cinquième jour, c'est la possibilité d'avoir une motivation intérieure vers le sens et vers l'inspiration. Mais c'est inconscient. Mais ça n'est pas à notre gouverne. La gouverne vient le sixième jour. Alors, c'est un passage capital. Voilà. Alors, le cinquième jour, donc, que nous venons de quitter, c'est la notion d'âme vivante, Nefesh Chaya, qui est caractéristique de tout le monde animal. Donc, qui est caractérisé par l'appétit, par la volonté de trouver ce qui nous fait vivre. Alors, le sixième jour va nous enseigner autre chose. Donc, si on remarque, on voit que dans ce sixième jour, on parle aux trois quarts du jour d'animaux. Pourquoi ? Parce que la distinction fondamentale à faire cette fois-ci, c'est entre l'animal et l'homme. Et malgré tout ce qu'on dit en philosophie, tout ce qu'on voudra, et en biologie, l'homme n'est pas un animal. Il a tout de l'animal, mais il est bien autre chose. Et le problème, c'est de se distinguer de l'animal. Alors, comment on va faire? Eh bien, justement,
C'est une autre catégorie d'animaux, malgré tout, qui nous est présentée au sixième jour. Là, nous sortons donc des poissons-oiseaux. Bon, nous avons expliqué
poissons,
ça logiquement.
Poissons-oiseaux et toute vie mouvante sur la Terre.
Oui.
L'homme doit le maîtriser. C'est-à-dire qu'il doit avoir non seulement la régulation de la vie comme tous les animaux, mais avoir la régulation de la régulation. C'est-à-dire que les animaux, ils cherchent leur nourriture. Donc, ils sont pris dans la nécessité de la prédation. Même les vers de terre. ils embêtent pas grand monde, mais il faut qu'ils prennent quelque chose. Bon. Donc ils sont dans la prédation. Quand on est dans la prédation, on est nécessairement dans la concurrence ou et dans la frustration. Pourquoi ? Parce qu'on trouve sa nourriture ou on la trouve pas. Si on la trouve, on survit. Si on la trouve pas, on meurt. Et si on est plusieurs, il va y avoir une concurrence. Donc, vous voyez que l'idée de prédation, de concurrence et de satisfaction ou frustration, ça, c'est de type animal. Est-ce que l'homme se réduit à ça ? La révélation nous dit non. Il faut maîtriser ça. Bien sûr que ça nous constitue aussi, parce que nous accumulons toutes les choses. Bien sûr, nous avons du sens, comme les poissons, mais nous ne sommes pas le poisson. Bien sûr que nous avons de l'inspiration, comme figurent les oiseaux, mais nous ne sommes pas des oiseaux. Bien sûr que nous avons les appétits, comme les animaux, qui figurent toutes les pulsions qui sont dans l'homme, mais nous ne sommes pas nos propres pulsions. Et si nous nous y réduisons, nous faisons une régression vers le monde animal, et nous n'achevons pas l'homme, donc nous n'arrivons pas au sixième jour. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas dépasser le sixième jour, donc nous n'entrerons jamais dans le septième. Donc nous ne pouvons même pas ressusciter. Il faut accomplir l'homme pour pouvoir ressusciter. Alors, quand on voit dans les six jours, comme il s'agit d'une conception divine de l'homme, il en résulte qu'il est important de comprendre ce que figurent les états animaux dans l'homme. Donc il y a trois états bien distincts. Il y a le poisson de la mer, l'oiseau des cieux et toute vie mouvante sur la terre. Alors, le poisson et l'oiseau concernent le cinquième jour et la capacité de l'homme à atteindre le sens des choses. Mais, cette fois-ci, il va falloir que ce soit consciemment. Alors, quelle est la différence ? C'est que le poisson, il vit caché au fond des mers. Le sens, il vit caché au fond de notre vie psychique. Il faut s'y éveiller, avec le contact, avec les choses à l'extérieur d'ailleurs. Mais quand on va être homme, quand on va recevoir le gouvernement, qu'est-ce que c'est que la domination, la maîtrise ? C'est que on se contente pas d'avoir du sens implicite dans notre vie. Ouais, la vie a du sens, mais enfin je sais pas trop quoi. Bon, ça, c'est être encore animal. Et un animal déchu en plus. C'est que quand on est homme, il dit, mais quel est ce sens? Alors, pour trouver le sens, je suis obligé de construire un bateau, de construire un filet et d'aller à la pêche. Donc, c'est mon travail qui va me permettre d'aller chercher le sens que ma vie a. C'est pas une chose qui va m'être donnée de l'extérieur. Donc, si je ne travaille pas, si je ne construis pas les instruments par ma raison et construisant les instruments de la raison, ça développe la raison en moi. Donc voyez que la raison qui va me permettre une régulation des phénomènes naturels, c'est moi qui la construis et qui la développe. Et donc je deviens, d'une certaine façon, avec toute cette donnée, co-créateur. Je m'achève. Bien sûr que j'ai besoin d'avoir tout reçu, mais j'ai reçu d'avoir à m'achever. Et c'est la noblesse de l'homme, sa liberté, et on verra peut-être la prochaine fois, ce qui nous fait ressembler à Dieu.
Merci Jean-François, et nous reviendrons quand même sur ces trois catégories animales que vous nous avez réintroduites. Alors les poissons et les oiseaux, nous les avons vus lors de l'émission précédente, mais voilà, les autres animaux terrestres.
Et c'est pour la prochaine fois.
Tout ce que tourne la domestication, voilà, vous nous expliquerez ça lors de notre prochaine rencontre. Merci encore Jean-François.
Au revoir Pierre-Éric.
Au revoir.
شمايم بتغيير الأرض بيمروا بقوية.